Et donc, j'appelle à la table les intervenants du temps suivant, donc Solène Bergot, Marie-Paul Donc, Ali Boukassem et Odile Grandet. Je vais laisser à notre inspectrice générale le soin de présenter nos intervenants plus en détail. Je laisse chacun s'installer, prendre place. On a pris un peu de retard. Je vais aller vérifier avec la régie qu'on peut garder ce retard ou si on doit le rattraper. On vous fera des grands signes si on doit le rattraper. Merci.
Bien, vous m'entendez? Merci donc de nous avoir invités à débattre ici dans ce lieu éminemment représentatif de l'innovation des bibliothèques, de ce beau sujet complexe. Depuis la fin du XXe siècle, je suis un peu croisée avec l'intervention de Thierry, depuis la fin du XXe siècle, donc, on a tourné autour de plusieurs notions pour caractériser, mais aussi singulariser les projets de bibliothèque. Et ces deux termes qu'on a beaucoup utilisés à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, c'est les termes déjà cités, de troisième lieu, et d'hybridation ou d'hybridité. On ne sait pas d'ailleurs exactement de lequel est le plus utilisé. Je commencerai, avant que nous rentrions dans la table ronde, par sortir du débat qui va nous occuper la notion de mutualisation. Même si elle est importante en termes de réalisation, il me semble qu'elle est modeste dans ses objectifs. La mutualisation, elle se définit par le partage de biens, d'espaces, d'équipements. Le but est d'optimiser une ressource, un parking, une salle de réunion, un espace d'accueil, une porte commune, une connexion, une perceuse, peu importe. La mutualisation, elle induit des relations de bon ou de mauvais voisinage, on l'a évoqué, elle peut conduire au divorce aussi, ça arrive, des relations de voisins de palier, de copropriétaires. Ce n'est pas là-dessus que nous allons nous attarder ce matin. L'histoire contemporaine des bibliothèques françaises, elle est ponctuée de variations lexicales. Quand dans la deuxième moitié du XXe siècle, on affiche « médiathèque » à la place de « bibliothèque », il s'agit déjà, par l'annonce, par le mot lui-même, de signifier un mouvement qui est celui du passage de la bibliothèque essentiellement patrimoniale et savante, un modèle qui est inspiré de la public library anglo-saxonne à dominante plus sociale. L'irruption de l'hybridation, de la question de l'hybridité, suit historiquement de très peu celle du troisième lieu et est-elle du même ordre que ce passage de la bibliothèque à la médiathèque? S'agit-il de dire « nous allons construire une bibliothèque, mais attention, ce ne sera pas celle qu'a fréquenté votre grand-mère. » Est-ce que c'est ça la question? Ce qui me semble, moi, aujourd'hui, caractériser l'hybridation, et ce sur quoi nous allons nous attarder ce matin, c'est la coexistence, sous la même gouvernance, de plusieurs filières, de plusieurs métiers, au service des citoyens sur un territoire. S'agit-il d'une véritable révolution de la conception de la bibliothèque ? Ou plus largement, d'une révolution de la conception des services aux citoyens. Un renversement qui orienterait la conception des espaces publics du côté de l'usager et non plus du côté des filières et ou des métiers. L'autre question étant de savoir si le modèle est viable, ne risque-t-il pas de creuser une inquiétude au cœur des métiers? Quelle est ma spécificité? Est-ce que je risque de la perdre au regard des usagers? Y a-t-il un risque plus symbolique du côté d'un ordonnancement caché, une culture supérieure au social, un musée supérieur à la bibliothèque, un social supérieur? Toutes les hypothèses sont possibles. Quels sont, au final, les enjeux de gouvernance de ces établissements hybrides? C'est ce que nous allons essayer d'éclairer avec les interventions de Solène Bergot, de programmiste au sein de l'agence ABCD, de Marie-Paul Donc, responsable de la médiathèque de l'Agora à Metz, et d'Ali Boukassem, DGS, DAC, et responsable de la médiathèque Estaminet à Grenay. On a donc prévu, à l'issue de cette table ronde, un échange avec vous sur environ un quart d'heure. Ma première question porte sur ce qui caractérise l'hybridation, l'hybridité, dans le ou les projets que vous avez portés ou que vous suivez. D'où est venue l'idée ? Qui la porte ? Et je vais donc d'abord passer la parole à Solène Bergot. Merci.
Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis consultante au sein de l'agence ABCD. Je travaille sur des missions de politique culturelle et des études de programmation architecturale. Donc je travaille sur la conception des lieux. Donc je ne suis pas en charge de la gestion et la vie de ces lieux par la suite, mais je travaille justement à l'origine de ces projets. Donc pour l'agence ABCD, on a effectivement travaillé depuis tout temps, je dirais, sur des équipements type pôle culturel, du coup, qui associe différents services culturels, voire différents services municipaux. Et ça, je pense que ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce type d'équipement. Après, cette notion de projet hybride, donc vraiment de projet, je dirais, partagé, de projet commun, où on n'est pas effectivement juste à partager des espaces et dans une logique de copropriété, on a pu la voir apparaître, nous, dès 2010, quand on a travaillé sur le projet de la médiathèque de Thionville, où effectivement, il y avait cette idée-là. Je pense qu'après, sur cette étude de programmation, on a plus travaillé finalement sur l'appropriation de ce concept de troisième lieu qui émergeait, et ça a été plus ce souci-là. Et je dirais que le premier projet sur lequel on a été sollicité là-dessus, c'est pour l'Agora à Metz, où on a travaillé sur la programmation à partir de 2011, donc ça fait déjà une dizaine d'années, et où là, effectivement, on pouvait lire la volonté d'un projet d'entité commune, avant même de parler d'espace commun, d'avoir ce projet unique. Du coup, depuis ces années-là, on a dans les cahiers des charges qu'on a l'occasion de... auquel on a l'occasion de répondre, hein, qui émanent des collectivités, pas mal de questions autour de cette question de projet hybride, et souvent exprimées de manière très différente, en fait. On a un registre lexical assez varié de cette façon-là. On a souvent ces notions de rationalisation, de mutualisation, de fusion qui apparaissent dans les cahiers des charges, et des situations, je dirais, initiales qui sont assez différentes. Soit effectivement, dans le cas de Metz, on avait une question très précise, on avait la volonté de créer une nouvelle médiathèque sur ce quartier, et la volonté de créer un centre social. La question, c'était de se dire, effectivement, est-ce que c'est intéressant d'avoir une médiathèque seule, un centre social seul, ou effectivement, qu'est-ce qu'on fait, on les juxtapose, on les fusionne, et la question était assez clairement posée. Et donc, dès l'étude de programmation, on a pu étudier, je dirais, les avantages inconvénients de chacune de ces solutions. Après, effectivement, on a parfois des questions un peu différentes, puisqu'on a, par exemple, on a travaillé sur le sujet de la médiathèque Maison de Quartier à Vaux-en-Velin, où là, on avait là aussi la volonté de créer une médiathèque. Nous, on est programmé dans le domaine culturel, donc on vient nous chercher parce qu'il y a vraiment un cœur d'équipement autour de la culture. Mais effectivement, on avait le souhait de créer une maison de quartier qui n'existait pas. Comment on définit du coup cette maison de quartier, et quelle couleur on lui donne? Ou alors, on a effectivement une médiathèque qu'on souhaite hybrider avec d'autres services publics, mais parfois, au stade du cahier des charges de la programmation, on n'a pas forcément une idée des autres services qui va falloir adjoindre à ce projet de médiathèque. Du coup, ça suppose généralement une concertation beaucoup plus importante sur ces projets-là, à la fois au niveau des habitants, des futurs usagers, mais aussi au niveau des services de la collectivité. Donc la définition est assez imprécise. Par contre, je trouve que généralement, les motivations des collectivités, elles se lisent de manière assez claire. C'est en gros, leur objectif, c'est de mieux faire fonctionner le service public, qui a un impact effectivement plus important auprès des usagers. Effectivement, on se rend compte que parfois, des équipements très spécialisés peuvent être des machines à exclure. Donc, les équipements culturels en font partie. Et donc, ça peut être l'occasion pour la collectivité de dépasser ce frein-là. Le croisement, l'enjeu aussi de croisement des publics, des usagers, est vraiment quelque chose qui est une motivation importante. Il y a aussi parallèlement le développement de ce phénomène de transversalité des politiques publiques et du coup que là on souhaite incarner et rendre palpable dans un équipement qui pourrait croiser différents services. Et une dernière motivation qui, selon moi, n'est pas la dernière, c'est la temporalité des services. Le fait d'hybrider permet aussi, ça peut être effectivement un moyen d'élargir la temporalité des services proposés. Donc du coup, ce qu'on peut voir aussi généralement dans ces projets hybrides, quand on est amené à réfléchir sur la programmation architecturale de ces projets, c'est qu'on a un portage un peu différent des projets plus classiques de médiathèque. On a généralement beaucoup plus de services de la collectivité qui sont impliqués. On a eu plusieurs projets en lien avec des programmes de rénovation urbaine, hein, que ce soit dans le cas de l'Agora à Metz ou de la médiathèque Maison de quartier à Vaux-en-Velin. Donc là, on a les services politiques de la ville qui sont présents. C'est assez précieux pour nous en tant que programmistes, parce que c'est vrai que c'est des services qui sont assez transversaux, qui ont souvent aussi des outils en matière de communication, de concertation, des liens avec les conseils de quartier qui sont précieux pour la définition de ces équipements hybrides. Mais c'est pas systématiquement le cas. On n'est pas toujours dans des cadres de rénovation urbaine. Mais en tout cas, on est du coup sur un portage généralement plus large. Et donc, les spécificités en termes de méthode, pour nous, ça va être vraiment de développer une concertation importante à tout niveau, que ce soit, comme je vous dis, auprès des futurs usagers, comme effectivement auprès des différents services de la collectivité, parce qu'on va être forcément amené à encore plus hiérarchiser les besoins, prioriser et définir une colonne vertébrale de l'équipement pour que l'offre reste lisible, hein, puisque c'est un de ces enjeux-là. Donc pour nous, finalement, sur ces projets-là, plus que d'inventer des nouveaux services, plus que de les multiplier, ça va être vraiment, dans nos études de programmation, l'enjeu, ça va être de créer les conditions de rencontre entre les différents services proposés pour justement ne pas être juste sur une cohabitation. Et vraiment de voir comment on peut créer des ponts entre les différents usages. Et ça va être ça, vraiment, notre point d'attention principal et les spécificités de ces missions.
Merci. Madame Donc.
Donc, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Alors là, nous sommes passés de la programmation, on va passer à l'application sur le terrain. Et donc, de cette belle histoire, puisque, comme le rappelait Solène, ça a pris quand même 10 ans. 2 ans de Covid sont passés par là, un changement de mandat municipal et une idée toute faite de ce que pouvait être l'Agora. L'Agora sur un territoire qui est quartier politique de la ville, donc qui relève de l'ANRU pour la construction. Et un maillage de territoire, en plus, avec des populations totalement différentes. Et un bâtiment qui s'appelle l'Agora. Donc l'Agora, s'il fait sens dans nos cultures personnelles, ne fait pas forcément sens dans un territoire où il y a plus de 60 nationalités. Et surtout dans un territoire qui a été défini sur une zone urbaine très, très excentrée, on va dire, par rapport au quartier, à côté d'une voie ferrée, en face de friches qui sont encore des friches pour l'instant, et un bâtiment qui est un signal urbain qui a été conçu par l'architecte pour vouloir faire sens dans le territoire, puisqu'il se remarque de très très loin. Donc une fois qu'on a posé ces choses-là, on s'attend à ce que la population vienne de façon naturelle. Mais c'est comme tout objet culturel avant tout que l'on pose dans un territoire. Il arrive tel un vaisseau spatial, mais forcément, les gens n'ont pas toujours envie de le fréquenter. Donc, l'hybridation, pour nous, a été vraiment de se servir de travail de l'équipe sociale pour pouvoir aller chercher les publics, parce que nous faisions sens pour toutes les autres bibliothèques du réseau, puisque nous sommes une médiathèque rattachée à l'ensemble du réseau des bibliothèques. Mais pour le quartier, nous sommes passés d'un petit équipement de 230 mètres carrés à un gros équipement qui est à peu près de 2400 mètres carrés sans le parvis. Et un équipement qui mixe donc un centre social et une médiathèque. Sauf de l'extérieur, ça n'est pas signalé. D'accord ? Ça s'appelle l'Agora. Donc notre principal problème pour nous a été de construire notre identité en tant qu'Agora. Agora qui mixait une médiathèque et un centre social. Et j'insiste assez dans le sens où les équipes se sont constituées, ce sont deux équipes différentes, deux tutelles différentes, deux services municipaux différents. Et encore avec une troisième entité qui est la direction de l'Agora. Direction qui, au bout de 2018, on va dire, jusqu'à 2020, Covid, 2021, départ du directeur à la retraite, et nous sommes restés 14 mois sans direction. Cette direction, au départ, lorsqu'elle a mis en place les équipements, je n'étais pas encore nommée sur le poste, j'ai été chef de projet de l'Agora en accompagnement avec Solène, mais je suis partie sur d'autres missions ensuite. Le directeur donc part. Et cette direction, qui aurait dû normalement fédérer au départ les équipes sur une même ligne, un même horizon, les mêmes valeurs, a fait avant tout de la programmation. Donc nous nous sommes retrouvés avec deux équipes qui travaillaient l'une à côté de l'autre, sans pour autant se côtoyer, chacun sur son champ. Chacun son territoire. Et lorsque je suis arrivée en juin 2019, donc je fais le constat très, très prosaïque qui consistait à voir que les équipes n'avaient pas une seule fois bu le café ensemble. Rien que ça. Et le café, on sait que dans nos milieux, c'est important. Donc, voilà, ces équipes ont été en parallèle. Alors donc, il y avait un très gros projet d'établissement, hein. Mais on pourra inventer tous les processus, je le disais à une collègue, tous les dispositifs de la Terre, la relation, elle est essentiellement humaine. Si vous avez à la tête quelqu'un qui ne fédère pas, et je ne parle pas d'enjeux managériaux, hein, mais simplement fédérer les personnes autour d'un projet commun, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il s'est agi de reconstruire cette manière de fédérer deux équipes différentes avec deux tutelles différentes. Et j'insiste sur des adjoints en plus différents, d'un côté culture, d'un côté éducation populaire, jeunesse et vie étudiante. Et chacun revendiquant son territoire. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez assez fabuleux, parce que ça nous oblige, nous, à vraiment poser les arguments de la coopération et de l'hybridation. Alors, la coopération, c'est vraiment le terme. Coopérer. Coopérer à partir de quoi ? Sur quel projet ? Et ce sont ces projets-là que nous avons dû définir. Donc, le directeur, entre-temps, est parti. Et nous, CODIR, nous sommes trois. Donc, centre social, médiathèque, entité Agora, nous avons reposé les bases de cette coopération, mais surtout en changeant le modèle du CODIR, c'est-à-dire que nous voulions plus deux directions, mais une coordination. Et ça, pour nous, ça nous est paru essentiel. Et la coordinatrice, donc après 14 mois quand même d'intérim, la coordinatrice vient d'arriver. Et elle vient du milieu du spectacle vivant, avec des formations aussi au niveau social. Donc quelque chose qui peut amener véritablement à travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui est vraiment, je ne regrette pas du tout. De pouvoir travailler sur cette ce défi, parce que c'est tous les jours, nous sommes en terrain d'expérimentation. Tous les jours. Il n'y a rien d'acquis, tout bouge. Parce que j'ai découvert à mon corps défendant et au corps défendant des bibliothécaires que le monde social, le champ social est extrêmement mouvant. On parlait de temporalité. Les temporalités sont parfois exclusives. Nous avons une temporalité avec la médiathèque où on doit demander la validation avec des strates et des strates et des strates, genre poupée russe, et le champ social qui pense son projet le matin, qui le met en œuvre l'après-midi. Vous voyez ? Donc, rien que ces temporalités, nous n'avons pas les mêmes horloges. En plus, ils ont d'autres temporalités qui sont extrêmement urgentes pour eux, ce sont la réalisation des dossiers de subvention. Ils ont des enjeux, mais qui sont majeurs, c'est leur survie dépend de leur financement. Puisque le centre social est géré par une association, d'accord ? Nous, nous sommes collectivité territoriale, mais l'association, on connaît le rétrécissement actuel des budgets, et pour eux, c'est un modèle qui est extrêmement important, c'est ce modèle financier. Donc nous travaillons, nous retravaillons constamment et nous sommes en train de revoir tout ce que nous avons fait pour redémarrer sur un autre... je suis encore déjà en retard ? Non, ça va. Donc nous sommes en train de retravailler. Et je disais passionnant, mais dans le sens où la mouvance sociale nous a profondément perturbés parce que deux fois changement de direction du centre social... Changement de responsable dit de secteur, puisqu'ils sont extrêmement sectorisés, avec des champs très très définis. Il y a très peu de vases communicants entre eux. Et là, d'un coup, rebattre à nouveau les cartes, retravailler sur quel est l'esprit de la personne qui va arriver, quelle est son habilitation à comprendre, ou son habileté, je veux dire plutôt, à comprendre ce que pourrait être le modèle médiathèque avec le modèle centre social. Ils sont passés par un coaching. Ils ont donc un coach qui les a accompagnés pendant plusieurs mois pour retravailler le fait de travailler avec une médiathèque. Et je dirais que si les bibliothécaires ont une très grande capacité à travailler avec les éducateurs et les travailleurs sociaux, l'inverse n'est pas toujours évident. D'accord ? Parce que le champ social sera toujours en capacité de penser qu'ils peuvent faire du culturel, mais que nous, du domaine culturel, nous ne sommes pas en capacité de faire du social. Alors, dans leur domaine, c'est pour ça que je dirais que chacun a sa juste place. Et ça, c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas, nous, les bibliothécaires, ni les acteurs sociaux, des couteaux suisses. Donc, chacun a sa juste place. Nous avons des filières, on en parlait. Ces filières doivent être reconnues. Mais ce qui est extrêmement important dans un modèle hybride, c'est que, avant d'ouvrir un bâtiment, vos équipes doivent être mixées, travailler pendant quelques semaines avant, autour de séminaires, de journées d'études, de pouvoir travailler et apprendre à se connaître. Ça n'a pas été fait au départ à l'Agora et ça a été quand même extrêmement compliqué pour mes collègues qui ont pris, on va dire, le taureau par les cornes et souvent ont été un peu désappointés. Mais alors, c'est ce côté, je disais, expérimental. C'est sûr qu'on n'est jamais stable, on doit toujours réduire les incertitudes au maximum, mais ça demande donc une équipe. Quand vous constituez votre équipe, vous devez avoir des personnes extrêmement, extrêmement sensibles au domaine social. Nous avons heureusement les mêmes valeurs, c'est l'émancipation du citoyen. Et quand vous êtes en médiathèque avec des CSP+, vous savez qu'au centre social, vous avez dans la pyramide de Maslow des gens qui viennent vous voir et qui n'ont pas à manger. Donc on redescend vite nos enjeux, nos défis, tout ce qu'on veut, pour pouvoir travailler sur, oui, la lecture publique, c'est un point d'appui, mais avec les travailleurs sociaux, ça, c'est extrêmement important.
Merci. Monsieur Boucassel, qu'en est-il à Grenay de l'hybridation?
Pardon. Qu'en est-il à Grenay de l'hybridation? D'où vient l'idée et comment c'est né, puisque vous avez un peu de recul de votre côté?
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je ne suis pas en train d'envoyer des textos. J'ai pris des notes sur mon téléphone. Et voilà. Alors, D'abord, on est dans un contexte, on est dans le bassin minier, à côté de Lens, qui vient de fêter les 10 ans du Louvre-Lens, et puis qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses fameuses cités minières, qui sont des trous avec des gruyères énergivores, et qui amènent justement pour une transition assez fine avec l'Agora, qui permettent aux familles socialement défavorisées d'aller voir régulièrement le maire pour lui demander des aides financières via le CCAS pour payer les factures d'électricité pour un bâtiment, pour un espace classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a peut-être quelque chose qui pêche un petit peu, mais manifestement, les crédits nationaux de RBM pour le renouveau du bassin minier vont peut-être y contribuer d'ici 2025. Donc voilà, on est dans un contexte éminemment socialement défavorisé. Grenay a le privilège d'être parmi les 10 villes, je crois, aux dernières statistiques de la Direction générale des collectivités territoriales, d'être parmi les plus pauvres de France. Et en même temps, elle essaie d'imaginer le meilleur pour ses habitants. C'est une ville à majorité communiste et républicaine qui s'assume telle qu'elle. Si vous aviez rencontré le maire, et je vous invite à venir découvrir ce lieu, cet espace des possibles, puisque ma collègue de Metz parlait de programmation pour ABCD, d'application pour l'Agora, peut-être qu'on pourrait joindre à notre expérience celle de l'innovation. On nous caractérise un peu comme celle-là. Alors c'est vrai qu'on a un peu de recul puisque le bâtiment a été livré en juin 2015. Et 7 ans après, manifestement, cette médiathèque intrigante et aussi, semble-t-il, inspirante, puisqu'elle elle a permis à quasiment un millier de professionnels de tout horizon, d'ailleurs, travailleurs sociaux, comme collègues du livre de la lecture, comme des animateurs ou des gens qui se préoccupent des questions de l'accessibilité, de pousser la porte et un petit panel autour de 300 élus de tous bords, sauf d'un certain que je vous laisse deviner, de petites ou de grosses collectivités qui sont venues voir un peu le pot de terre pour cette innovation, d'où l'adjectif qui revient souvent de médiathèque intrigante et inspirante, puisqu'effectivement, il semblerait qu'on ait imaginé quelque chose qui soit relativement improbable dans le contexte que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire avec on l'a évoqué aussi, des contraintes budgétaires terribles, une ville sous perfusion, puisque effectivement on est assez aidé par vos impôts, par nos impôts, et qui permet malgré tout d'avoir un équilibre et d'imaginer le meilleur. On avait livré une place qui est reconnue au ministère de la Culture, puisque c'était une commande publique, et cette médiathèque arrive déjà à ce moment-là, en 2008-2009, dans les réflexions, mais elle n'est pas encore une médiathèque tiers-lieu. C'est une promesse électorale, puisque le maire, qui est professeur d'histoire, avec quelques élus qui sont aussi profs, mais qui ont une vraie sensibilité autour des enjeux et des résultats catastrophiques du niveau CM2 6e au niveau des acquisitions, indique qu'il faut un outil pour permettre justement aux familles socialement défavorisées. On a quelques familles de classe moyenne, mais il y a 70% de gens qui ne payent pas d'impôts. Donc du coup, la cible, le cœur de cible, j'allais dire, est naturellement clair. Et donc les élus veulent faire une promesse, veulent en tant que promesse électorale, livrer une médiathèque comme un moyen de lutter contre l'échec scolaire et puis d'en favoriser l'insertion sociale, scolaire et professionnelle de leur public. Lors d'une rencontre avec notre cher conseiller livre et lecture Pascal Allard de l'époque, qui quand même a apporté son ingénierie pendant plus de 30 ans au niveau régional, a pas très bien commencé. Et du coup, il y a eu des incompréhensions, a pas très bien compensé, mais l'idée de faire une médiathèque de 1600 m² chaune a vite été, comment le dire gentiment, a vite été réduite à une, justement, on parlait du mètre carré bibliothèque, à au mètre carré bibliothèque pour dire vous êtes pauvre, c'est toujours intéressant de se le rappeler, vous pourrez pas avoir plus de 800 mètres carrés, et puis c'est tout. À ce moment-là, j'ai sorti du coup, c'est d'abord été, pour être très précis, une réponse politique et ensuite une réponse de technicien, puisqu'on réfléchissait beaucoup, on travaillait avec l'ABF des Hauts-de-France sur les médiathèques des possibles. On avait participé pour la ville, en ce qui me concerne en particulier, à différents voyages d'études aux Pays-Bas notamment, mais aussi j'avais envoyé ma collègue du livre et de la lecture en Angleterre pour aller voir ce qui se passait autour des idea stores. Donc on avait quelques inspirations qui ont alimenté la réflexion. Et puis, cette idée de tiers-lieu est naturellement arrivée. J'avais participé à quelques séminaires avec M. Callonge à l'époque, à l'ENSIB, et puis avec, évidemment, l'expérience de Mathilde Servet, qu'on a invité après autour d'un séminaire, qui nous a permis de mûrir cette idée de tiers-lieu. Et puis, naturellement, la notion d'estaminet étant un enjeu majeur dans notre histoire du bassin minier, associer une médiathèque à un lieu de vie, un lieu convivial, et donc d'appeler ce lieu... Et essayez de l'enregistrer, s'il vous plaît. On ne doit pas être bon en communication. On y tient beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être un lieu hybride, un lieu étrange. Mais on y tient beaucoup à cette médiathèque tirée, estaminée. Le maire corrige à chaque fois quand il y a des oublis des différents services. Mais on y tient beaucoup. Donc, cette médiathèque estaminée est née en termes de concept. Et notre collègue Pascal Allard, d'avoir l'œil droit ou gauche, je ne sais plus, qui brille, en disant « Chiche, écrivez le projet ». Et on a écrit le projet. On a été accompagnés, et du coup, les services de la DRAC et du conseil départemental nous ont à la fois accompagnés en espérant, je pense, voir un beau bébé naître pendant pas mal de temps, mais à la fois avec une vraie rigueur, puisque c'est une ville pauvre et avec peu de moyens. Et du coup, vous avez compris dans la présentation qui m'a été faite des différentes fonctions, non pas que je souhaite être un cumulard assumé, mais en même temps, la réalité des moyens d'une ville fait que forcément, quand on est attaché principal, dans une ville comme la nôtre, on ne peut pas en avoir 12. Et donc, forcément, on est amené à être un peu un couteau suisse et essayer de mobiliser les différentes ressources. Donc voilà, la genèse du projet est arrivée comme ça. Et puis, j'allais dire, alors nous, on n'a pas bossé avec ABCD, mais le bras armé du conseil départemental et de la DRAC a été nous inviter à prendre un peu de hauteur et à être accompagné ou par ABCD ou par Émergence Sud. Il s'avère que ce sont les deux cabinets qu'on avait consultés, et c'est Émergence Sud qui a été retenu. Et j'allais dire, c'était du bonheur pour eux, puisque à la différence de peut-être d'autres collectivités, la réflexion autour de la connexion entre différents secteurs social, culturel, animation, éducation populaire était déjà une pratique qu'on avait depuis 2001. Quand je suis arrivé en 2001 pour cette ville, pour lancer la création de l'espace culturel Ronnie Cooter, qui est un artiste de la région, qui est une salle de 200 places. La première des actions qu'on nous avait demandé, c'était faire rentrer les écoles dans cette médiathèque, dans cette salle de spectacle qui est polyvalente. Et la première chose qu'on a faite en termes d'action, ça a été un salon d'animation autour du livre, dans une salle de diffusion. Ça a été la première action. Donc, c'est dire que le travail avec les élèves et l'éducation nationale était déjà un objectif pour les élus. Et puis, très, très vite, peut-être parce que c'est mon profil, et je fais quelques études, et je suis aussi travailleur social de formation, mais j'ai aussi baigné dans l'éducation populaire longtemps. J'ai un peu fait de l'artistique aussi. Peut-être que tout ça a concouru à faire en sorte que ça alimente un peu un projet. Et naturellement, j'étais déjà amené à bosser avec les services sociaux du CCAS. Très naturellement, les questions de médiation et d'animation et d'éducation populaire, forcément. Comme j'ai un parcours dans l'éducation nationale, le travail avec ces connexions-là devait se faire, c'était fait naturellement. Comme je viens aussi du conseil des les questions de protection maternelle et infantile, c'était peut-être aussi des réflexes naturels. Et j'allais dire, c'était très simple d'une certaine manière, pour le cabinet d'études, puisque le projet existait déjà. Il fallait juste être accompagné pour avoir un cahier des charges et permettre à un architecte de fabriquer la boîte qui répondait à un projet qui existait déjà. Ça a été l'enjeu, et c'est la signature de Richard Echoller, le cabinet parisien, qui a gagné le concours et qui a été livré en 2015 et qui permet aujourd'hui d'être une relative vraie réponse aux enjeux des médiathèques, pour moi, je pense, des enjeux des bibliothèques de demain, puisque aujourd'hui, c'est une vraie fréquentation. Je pense que c'est un point après, donc je ne vais pas tout exposer, mais voilà pour si je sais pas, ça va, je suis dans le timing.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On voit que ces enjeux et ces définitions d'une hybridation potentielle sont variés, singuliers, ne s'expriment pas de la même manière sur chaque site. Je voudrais maintenant qu'on s'attarde sur la question de la gouvernance qui, en préparant cette table ronde, nous est apparue comme le cœur de la question, ou en tout cas la condition de la réussite ou de l'échec pour ces projets. Donc on va s'attarder sur cette question. Comment ça se gouverne, comment ça marche, j'allais rajouter, pour de vrai. Et peut-être en commençant avec vous, Solène Bergot, comment ça se lit dans les projets ?
Oui, donc là, c'est vrai qu'une des spécificités des projets hybrides qu'on peut suivre en études de programmation, on n'est pas forcément sollicité sur la question de la gouvernance, c'est des choses qui arrivent. Et là, sur ces projets-là, ça vient très très tôt, cette question. Et je dirais, c'est pas seulement quand on associe, par exemple, un service municipal, un service de bibliothèque avec des services qui peuvent être associatifs. Alors, effectivement, là, le sujet est crucial. On a des questions de statut juridique, etc. Mais le sujet, il vient même quand on associe, en fait, différents services municipaux qui ont des cultures différentes. Donc, c'est vraiment, plus qu'une question de statut juridique, une question de gouvernance, comment on va organiser les prises de décision à l'échelle de ces structures. Et là, c'est vrai que c'est une des spécificités des projets où on va nous interroger dès ce moment-là. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a pas de modèle qu'on peut transposer. Par contre, nous, ce qu'on encourage, c'est d'aller s'inspirer ailleurs et d'aller s'inspirer aussi peut-être en dehors des équipements culturels. On a notamment toute une génération de tiers-lieux dans le domaine de la culture, mais ailleurs, qui expérimentent des nouveaux modèles, donc à chaque fois très adaptés au contexte, mais qui pour nous sont des inspirations vraiment intéressantes. Et puis, cette question de la gouvernance, on peut la mettre en œuvre avant même que le lieu soit créé. Enfin, rien n'empêche, en fait, de mettre en place la gouvernance. Et puis, on le conseille. Et puis, je crois que l'expérience de la médiathèque estaminée là, est assez parlante. En fait, l'idée de la faire vivre avant même que l'équipement soit né, ça paraît essentiel. Et si, effectivement, les collaborations ne sont pas préexistantes, de les préfigurer, paraît vraiment une clé de réussite essentielle. Alors c'est vrai qu'après, nous on va travailler sur cette question de, je pense que ce qui peut soutenir hein, une gouvernance pour qu'elle soit vraiment incarnée, c'est quand même le projet commun qu'il va falloir tricoter autour vraiment des valeurs communes, parce que même si effectivement on peut se dire on associe des services qui ont des missions différentes, donc on va cumuler en fait dans ce futur projet hybride. Il faut quand même qu'on trouve des valeurs communes, et c'est grâce à ça qu'on pourra aussi avoir une gouvernance commune. Et puis, comme je disais, tenir un peu la colonne vertébrale et de l'établissement pour avoir une offre lisible, ce que demandent aussi les usagers, parce que sinon on peut vite les perdre aussi avec ces concepts-là. Je dirais aussi que sur la gouvernance, c'est très important d'associer les partenaires. Alors, bien sûr, les DRAC, mais aussi les autres partenaires, qui peut être effectivement la caisse d'allocation familiale, par exemple, parce que nous, dans le cadre des études de programmation, on est amené à les consulter. Et c'est vrai que là, on est plutôt à détricoter à chaque fois le projet, donc isoler les mètres carrés qui correspondent à tel service pour effectivement identifier, et ça va un peu contre la démarche qu'on est en train de créer sur un projet commun, et se dire bah voilà, cet espace-là c'est 75% médiathèque, 25%, et c'est vrai que du coup on va un peu contre la logique qui est faite. Donc plus on les associe sur cette réflexion sur quelle gouvernance mettre en œuvre, d'être un peu dans une logique de se dire on est sur une responsabilité collective, il faut que cet équipement fonctionne, c'est important. Donc surtout ne pas laisser les partenaires à côté, et parce que effectivement je pense qu'il faut qu'ils soient partie prenante sur ces questions-là, et cette question de projet commun autour de valeurs communes est essentielle pour, selon moi, pour travailler une gouvernance qui fonctionne et l'inspiration.
Merci. Madame Donc.
Alors, la gouvernance, c'est quelque chose d'assez assez complexe quand même à expliquer, mais qui a déjà débuté quand on parlait des mètres carrés, par la définition très fine des mètres carrés de chaque espace. Donc l'agora a 3 étages, enfin rez-de-chaussée mutualisé complètement, plus un espace premier étage avec la lecture publique beaucoup plus visible, et deuxième étage, aussi également lecture publique. Et vous avez tous les à côté qui sont des salles, on a 12 salles, dont une énorme salle qui est donc la salle de spectacle, un peu près de cette taille, avec siège rétractable, qui est un élément de toutes les attentions, puisque c'est celle qu'on programme en priorité. Et donc c'est un peu à savoir qui va pouvoir programmer, mais à partir du moment où on fait un projet commun, tout se passe vraiment très bien. Donc la répartition des mètres carrés s'est fait d'abord en équipe projet avant même que la gouvernance ait été bâtie en tant que telle. Et cette répartition-là a été extrêmement importante parce que déjà il y avait des aides de l'État, forcément, et aussi qui rendait un peu les choses incompréhensibles du côté social parce que ça n'allait pas de soi. Donc il a fallu rebattre aussi les cartes à nouveau pour redéfinir, mais en gros, je pourrais vous le montrer cet après-midi, on a des cartes avec des plans très, 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 très comment dire, cernés. Mais la gouvernance donc qui est actuellement en fonction, qui est celle du début, vous avez donc le CODIR, donc médiathèque, centre social, entité Agora, plus le conseil d'administration du centre social. Alors le conseil d'administration du centre social avec des représentants du quartier, le conseil de quartier qui est inclus à l'intérieur. Quand je vous parlais de poupées russes, c'est à peu près ça. Hein. Vous avez des élus, donc nous avons deux directions, deux politiques, donc un élu jeunesse, un élu culture, qui heureusement sont des personnes intelligentes et s'entendent bien, donc on peut avoir un dialogue, parce que si ça ne marche pas sur le plan politique, ça ne pourra jamais fonctionner sur le plan de l'établissement en lui-même. Et vous avez des représentants du quartier. Et c'est vraiment extrêmement important, puisque dès lors que vous faites des projets, si vous n'êtes pas rattaché à votre quartier et surtout à votre territoire, vous allez faire des projets hors sol et qui ne vont absolument pas intéresser les habitants. Alors c'est toujours un peu compliqué d'avoir des personnes du quartier, parce que ce sont déjà des personnes acquises à la cause. Donc le travail social de mes collègues donc, du centre social est d'aller chercher l'habitant là où il est, c'est-à-dire qu'ils font du porte-à-porte et ils vont aller voir les habitants pour leur demander d'intégrer un élément du centre social pour pouvoir apporter la parole de l'habitant, parce que c'est essentiel pour nous gouvernants. Après, nous avons la répartition qui est aussi... difficilement perceptible pour nos adjoints référents, c'est-à-dire que quand un adjoint à la culture rentre dans la médiathèque, il identifiera la médiathèque très facilement puisqu'il y a des périodiques et il y a un café social. Alors le café déjà fait le catalyseur du quartier. Et vous avez de l'autre côté l'adjoint à la jeunesse ou le représentant de la CAF qui rentre et qui dit qu'il ne s'y retrouve pas, qui ne voit pas le centre social. Donc, vous avez beau vouloir mixer, hybrider, il y a quand même des références qui doivent apparaître très nettement. Et c'est ce travail que nous sommes en train de reconstituer au sein du comité de gouvernance. C'est comment, non pas changer nos modèles et nos surfaces, mais comment changer les mentalités. Et ça, c'est un gros travail, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc c'est vrai que quand on vient d'un milieu où on a une mixité, une hybridité déjà naturelle, ça peut aider fortement à faire avancer les choses. Mais les zones de repli sont extrêmement faciles et ces zones de repli peuvent arriver à des zones de conflit. La gouvernance pour nous a été extrêmement importante. On s'est appuyé dessus lorsque nous avons eu nos fameux passes sanitaires. Là, nous sommes rentrés dans des querelles ubuesques, puisque vous avez une entrée commune, mutualisée, et d'un côté, vous avez des personnes qui rentraient pour le centre social qui n'étaient pas soumis au pass sanitaire, et des personnes qui rentraient pour la médiathèque qui étaient soumis au pass sanitaire. Je vous laisse imaginer ce que ça a donné. Donc, on était à chaque fois, nous, les directions, en train d'apaiser en se disant « on va y aller, on va aller sur le terrain, on va discuter ». On a fini par décentrer le problème, c'est-à-dire qu'on a fait une entrée un peu à part pour le centre social, parce que comment on reconnaît quelqu'un qui vient pour le centre social ?
franchement. C'est parce qu'il n'est pas habillé pareil que nous, c'est parce que voilà, il a l'air plus pauvre que nous, enfin, etc. Donc ça donnait des choses que on a noté quelques formules et un jour on le ressortira parce que c'était quand même voilà ce genre de distorsion à la fois fonctionnelle, structurelle et temporelle. Font qu'à chaque fois, la gouvernance, c'est un énorme travail de fédération. Mais on a eu ce pass sanitaire qui a vraiment failli nous faire exploser en vol. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi nous étions aussi tordus. C'est le mot, hein, tordus. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus.
Merci. La gouvernance à Grenelle.
Alors à deux niveaux, la gouvernance d'abord politique. Je vous expliquais que c'était une ville à majorité communiste.
Pardon, j'avais expliqué que c'était une ville à majorité communiste. Donc, il y a deux types de. Enfin, pour moi, il y a d'abord une gouvernance stratégique avec la gouvernance politique. Et le maire aime à rappeler que ça lui arrive parfois d'assumer d'avoir le colibé, d'être stalinien dans certaines décisions. Et donc, du coup, il a décidé de manière complètement dirigiste d'avoir une médiathèque, un service public municipal qui réponde à des orientations politiques et qui soit dirigé par des élus, avec une feuille de route politique très claire, qui doit être déployée par des fonctionnaires loyaux et parfois convaincables à merci. Sur cette stratégie, c'est très clair. Et notamment, vous verrez tout à l'heure, cet après-midi, je vous présenterai quelques images où on mettra bien en valeur les différents usages, et notamment le fameux bar, puisque à la différence peut-être de certains espaces, le côté accueil a été... je ne sais pas si on peut dire soigné, mais en tout cas a été réfléchi parce que pour les conditions que je vous ai évoquées, l'idée était d'abord de travailler sur évidemment une transparence dans le cahier des charges au niveau de l'architecte, c'était très précis. Il fallait donner envie, et ça rejoint un des slides que M. Clerc vous a présenté sur l'un des derniers slides sur le fait de pouvoir s'y retrouver, se retrouver comme à la maison sans être à la maison. C'est assez fidèle à ce que nous on a essayé de développer, qui reprenait l'idée de pouvoir être à l'aise, se sentir bien pour y revenir. C'est d'abord et dans les premières collections, de manière très provocatrice peut-être, on disait que c'était pas spécialement en termes de collections et des périodiques d'envisager ou de référence le Télérama ou les Arts Occuptibles, mais peut-être que le Galibo, qui est un petit journal gratuit du coin, ou le Paris Turf, ça pouvait peut-être être les collections qui pouvaient être des produits d'appel pour faire rentrer les publics, ces publics, puisque les gens qui lisent Télérama ou les Arts Occuptibles, ils n'ont pas spécialement besoin de nous pour rentrer dans une médiathèque. Donc ce constat a été celui-là, avec un mobilier qui a d'ailleurs été confié aussi à l'architecte, alors qu'il y a eu des grands débats, surtout leur donnait pas les conditions, la gestion du mobilier. On s'est posé la question, puisqu'on n'avait pas les moyens, leur dire tout le monde nous dit de ne pas vous confier la mission mobilier, pourquoi on vous la confierait ? On a plutôt inversé la relation et on a réussi au fil des relations à développer ce qui est apparu comme une espèce de relation vertueuse entre l'architecte, la ville et puis les habitants. Quelque chose qui a un peu fonctionné et qui est peut-être aussi un des éléments de réussite, si on peut dire que 7 ans après, c'est aussi une réussite que ce projet de médiathèque. Donc on a cette gouvernance politique avec des élus qui veulent maîtriser et qui font le choix aussi du service public. On est une ville pauvre, mais on a tous les corps de métier pour être en autonomie totale. Donc on a aussi bien un garage que des maçons et des plombiers, et on a évidemment les différentes filières dans la ville. Et cette médiathèque estaminée, je vous l'ai évoqué tout à l'heure en parlant des services, on a la filière culturelle, la filière animation, la filière administrative, la filière sociale et la filière technique qui œuvrent dans cet espace. Donc cette filière politique étant claire, on a du coup créé un bar en régie municipale, donc un budget propre. Donc il a fallu expliquer auprès de la direction générale et à la DAS qu'il y avait participé à la création d'un bar, ça nécessitait évidemment une licence, et que du coup ce service apportait de la cohésion, c'était un service public, puisque quelques cafés étaient fermés, et que pour récupérer des licences qui n'existaient plus, pour pouvoir redynamiser un peu le territoire et apporter un service aussi aux habitants. Et donc, fort de cette envie, de cette volonté, il a fallu rassurer, expliquer aux agents qu'ils allaient devoir partir en formation, puisqu'il faut être régisseur principal et qu'il y a aussi un régisseur suppléant. Et donc, il fallait qu'ils partent en formation à Arras, à la DDCS, pour montrer patte blanche, aller au commissariat de police pour dire qu'ils n'étaient pas des délinquants notoires et qu'ils pouvaient vendre de la bière ou du vin dans le cas, puisqu'on a pris une licence 2 et pas une licence 4. Et puis, expliquer à tous les agents que forcément, comme on est dans une poly multicompétences, un mot qui nous rend un peu à l'aise pour dire qu'en fait tout le monde fait beaucoup de choses et il s'épuise parfois. On verra tout à l'heure, comme on a beaucoup parlé de management, on a évoqué l'idée, mais c'est aussi une médiathèque qui est inspirante, qui est intrigante, mais qui est épuisante aussi. Je pense c'est le recul qui me permet de dire ça, mais qui amène aussi à pouvoir faire en sorte qu'on est nécessairement dans un partage de savoir et expliquer à quelqu'un du livre comment inscrire une famille à la cantine. C'est pas spécialement le cœur de métier d'un bibliothécaire, on est d'accord, mais pour nous ça participe aussi d'une étape de médiation qui est le premier contact, puisque le premier contact c'est d'abord l'accueil général et on vient à la médiathèque pour pouvoir inscrire son enfant. Enfin, le choix, le parti pris a été de dire on va d'abord rentrer en médiathèque pour des choses nécessaires pour nous. Globalement, par rapport au public, puisqu'on a parlé des besoins, c'est pas spécialement le public qui viendrait naturellement dans une médiathèque. On aura plutôt des gens qui vont devoir avoir envie d'inscrire leur enfant à la cantine, à la garderie ou au centre d'animation jeunesse. Et évidemment, peut-être à la médiathèque, mais peut-être pas d'emblée. Et donc, du coup, comment on peut, en les inscrivant, savoir les inscrire, donc connaître le savoir. Et du coup, il faut forcément faire culture commune entre les collègues du livre, les collègues des affaires scolaires, les collègues d'éducation populaire, les collègues de la culture, puisqu'il y a aussi la vente de billetterie, puisque c'est aussi une salle de spectacle, cette médiathèque, c'est aussi une microfolie, enfin, voilà, j'en parlerai tout à l'heure, peut-être un peu plus en détail, mais et c'est devenu même une agence postale il y a peu, donc voilà. Qui a permis d'impliquer un peu les agents. Alors c'est vrai que nous, l'expérience a montré que moi j'étais pas directeur général des services à l'époque, hein. J'étais directeur de la culture et j'ai impulsé cette idée de tiers-lieu. Et puis en avant 2015, on avait pendant 18 mois de travaux, j'avais fait valider par les élus l'idée de faire une pause et d'associer les agents, les futurs agents de la médiathèque et du pôle médiathèque à aller découvrir des médiathèques. Et puis à aller sur le chantier pour s'imprégner, pour s'impliquer, pour se projeter. Et c'est là qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de collègues des autres secteurs qui n'étaient jamais allés dans une médiathèque. Un premier état des lieux qui était quand même important pour expliquer un peu comment ça allait fonctionner. Alors j'ai beaucoup aimé la référence aussi au film d'Éric Rohmer, puisqu'on a essayé d'associer dans la réflexion, parce que vous avez compris que c'est une promesse électorale, donc un enjeu politique fort, avec une opposition frontiste forte, qui a crié, à qui voulait bien entendre, la presse ayant repris ses arguments, que la médiathèque estaminée allait être le Titanic des ressources de la ville et que ça ne pouvait pas se faire comme ça. Alors bien évidemment, on n'a pas de gouvernance, et le maire est quand même quelqu'un d'intelligent, il a quand même compris, même si je n'étais pas DGS à ce moment-là, mais que la gestion de l'argent public et la recherche de financement, on en parlait avec la collègue de Metz tout à l'heure, c'était aussi mon cœur de métier, et ne pas se mettre une balle dans le pied en maîtrisant la masse salariale, c'était une nécessité absolue pour pouvoir faire en sorte que cet équipement puisse vivre. Du coup, la mutualisation des équipes, des ressources, des moyens, enfin, quand on rationalise des bâtiments, quand on vend des bâtiments, ça permet de payer le parking, c'est bête, mais c'est une réalité. Et du coup, quand on a des bâtiments énergivores qui arrivent dans un bâtiment comme celui-ci, qui n'est pas RT, qui n'est pas, qui n'a pas HQE, mais qui a 11 cibles sur les 13, fait que c'est quand même une forme de gestion durable, pas complètement inintéressante et irresponsable. Et donc, du coup, trois photocopieurs, il n'y en reste plus qu'un, etc. Enfin, on avait forcément rationalisé les dépenses qui permettaient à la ville de pouvoir dégager des marges, de les mettre au service des animations, de les mettre au service des acquisitions, puisque c'est 21 000 documents, on a atteint les objectifs, mais maintenant on les explose même. C'est aussi faire des investissements et envisager des ressources et du matériel qui doit durer dans le temps. Et en rayonnage, vous savez mieux que moi que USM, jusqu'à présent, à l'époque, c'était ce qu'il y avait de meilleur, mais c'est ce qu'il y a de plus cher aussi. Et on a fait le choix du meilleur pour que ce soit le plus durable possible, puisque mobiliser des financement et des accompagnements, on n'arrive pas toujours, et ça n'arrive pas tous les ans, de pouvoir se faire financer un équipement comme celui-là, puisqu'on a enregistré, je veux dire, 80%. Donc voilà, et c'est la règle. Donc,
merci, monsieur Boukassem. On comprend que cette question de la vous avez utilisé le terme de polycompétence, c'est une question complexe. On entend que c'est possible. On entend que c'est fatigant, que c'est compliqué. Ce que je voudrais qu'on traite comme sujet maintenant, comme point d'éclairage en tout cas, c'est la question de la réception par le public. On a entendu Madame Donc nous dire que le public ne savait pas a priori ce qu'était l'Agora, par exemple. On a entendu Monsieur Boukassem aussi nous dire dites médiathèque-estaminet et non estaminet tout court, comme nous avions collectivement pris l'habitude de le faire. Donc on entend bien que ces questions de noms propres, de noms composés, jusqu'à combien de tirets peut-on mettre dans un titre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui marche le mieux et qu'en dit le public ? Solène Bergo, si vous voulez bien commencer.
Moi, je vais commencer par parler des bibliothécaires, parce que c'est aussi des usagers premiers de ces équipements. Et c'est vrai que nous, dans la réflexion, lors de la programmation, on travaille au plus près avec ces équipes de bibliothèques. Et généralement, quand on s'engage dans ces projets, sur les derniers projets là, qu'on a pu avoir, moi, je dirais que les bibliothécaires reçoivent très bien ce projet d'équipement hybride, parce qu'effectivement, une médiathèque, c'est des ressources disponibles et le développement de services pour mettre en lien les personnes avec ces ressources. Donc finalement, de plus en plus, je trouve, dans la profession, on a une idée assez plastique de ce qu'est une médiathèque. Et beaucoup me disent, oui, bon, OK, on va peut-être ajouter d'autres types de services, d'autres sociales, etc. Mais on le fait déjà, plus ou moins. On accompagne parce qu'on accompagne l'ensemble des habitants. Donc, je dirais qu'il y a, dans un premier temps, pas forcément de frayeur par rapport à cet aspect hybride. Et puis aussi, les médiathèques savent développer des partenariats avec un certain nombre d'acteurs et de partenaires. Donc pour moi, c'est des... Je dirais par rapport travaillant sur tout type d'équipement culturel, la médiathèque est vraiment un bon socle pour travailler sur un équipement hybride et pour avoir un cœur d'offre un peu solide là-dessus. En plus, ce qu'on constate, c'est que les équipes sont de plus en plus composées de profils un peu différents qui peuvent émerger, donc du coup avec des équipes aussi de plus en plus qui sont habituées à avoir pas forcément uniquement des gens de même formation. Après, une fois que j'ai dit ça, quand on rentre un peu dans le détail des choses et qu'on essaye d'imaginer concrètement ce que tout ça peut donner, quand on parle de l'idée, par exemple, on va avoir une entrée commune, et au-delà d'une entrée commune, c'est un accueil commun, pas question de faire deux postes d'accueil, mais vraiment, là, on a plus de difficultés, on voit réapparaître quand même quelques corporatismes, quelques cultures professionnelles assez différentes, et notamment, Marie-Paul en parlait, cette question de renouvellement des équipes, par exemple, sur des médiathèques qui sont généralement assez stables et qui voient des collègues sur d'autres structures associatives, par exemple, qui renouvellent beaucoup plus facilement, de temporalité de projet. Ça, effectivement, c'est des choses qui peuvent assez inquiéter, et du coup, nous, il faut vraiment qu'on tienne le cap pour pas se retrouver à dédier en fait des espaces à l'un ou à l'autre pour régler ces questions-là. Mais moi, je trouve franchement que par rapport au projet qu'on a pu mener sur ces questions d'équipement hybride, la médiathèque, c'est vraiment la meilleure base pour travailler là-dessus par rapport à l'ouverture et la plasticité qu'on a autour de ces équipements aujourd'hui.
Alors, donc par rapport, effectivement, je rejoins ce que dit Solène. Lorsque je suis arrivée, donc j'ai repris les fonctions de responsable de médiathèque en juin 2019. Je vous disais que je trouvais une équipe des équipes qui ne se parlaient pas, mais surtout une équipe de bibliothécaires un peu déconnectée de son territoire. Parce que je connaissais le territoire, je l'avais arpenté, mais quand je leur posais des questions, je me suis rendu compte que tout bonnement, ils avaient le syndrome du métro-boulot-dodo, c'est-à-dire qu'ils prenaient le métis ou prenaient leur voiture ou leur vélo, posaient leur engin à la médiathèque, restaient sur la médiathèque, mangeaient sur place et repartaient. Ils ne connaissaient pas leur territoire. Donc la première chose qu'on a mis en place avec les collègues du centre social et les bibliothécaires, c'est de faire ce qu'on appelle une randonnée urbaine. Donc nous sommes partis avec nos petites baskets et avec des statistiques rue par rue, pour voir quel était notre taux d'imprégnation, on va dire, de pénétration du quartier par nos inscriptions. Donc nous avons fait une petite série de 8 km, et quand nous avions des grands ensembles, on voyait deux inscrits. Donc voilà, deux inscrits sur des 100 appartements au moins, donc ce qui nous laissait quand même une très 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 grosse marge de progression dans la conquête des publics. Après, par rapport à, comment dire, aux usagers, au public, sont venus très naturellement des personnes qui fréquentaient déjà le réseau des médiathèques, d'accord ? Pour eux, c'était un bel équipement, c'était tout nouveau, c'était tout beau, il n'y avait aucun problème, ils étaient ravis. Les personnes des quartiers, nous les avons conquis de plusieurs manières. Déjà, en faisant la même chose que les travailleurs sociaux, en se déplaçant, donc en faisant cette randonnée urbaine, où nous interrogions les gens. Et en leur disant, voilà, ils nous voyaient tous en troupeau, comme ça, en train de se demander qui on était. Et on leur disait, nous sommes des personnes de l'Agora. Et systématiquement, les personnes nous disaient, l'Agora quoi ? À chaque fois. Donc là, c'était quand même un phénomène assez inquiétant. Donc ça a été vraiment le travail à faire, c'était d'aller conquérir ce quartier, puisque pourtant ce bâtiment énorme, signal urbain, appelé l'Agora, ne dit pas ses fonctions à l'extérieur. C'est ni identifier médiathèque, ni identifier centre social. Au bout de 4 ans d'existence, nous allons mettre des bâches pour indiquer qu'est-ce que nous faisons à l'intérieur ? Alors, le mot centre social, je vous garantis qu'il est beaucoup plus fort dans le quartier que le mot médiathèque. D'accord ? D'abord, le centre d'intérêt, c'est le centre social. Mais nous avons conçu des projets, fêtes de quartier, fêtes de la poésie, les journées du patrimoine, où nous fédérons systématiquement toutes les équipes autour d'un projet commun. Et à charge pour le centre social d'aller chercher les publics que nous n'avons pas l'habitude de capter. Et ça a été vraiment des moments extraordinairement merveilleux parce que les personnes nous ont découverts et nous avons pu offrir ce que nous avions à offrir, toute notre culture, notre lecture publique autour de livres, de d'autres documents, et on a pu leur proposer. Et quand vous avez affaire à des personnes qui, on a à peu près 60 nationalités sur le quartier, dont certains qui ne parlent absolument pas français, nous avons pu leur demander, par exemple, dans le cadre du Printemps des Poètes, de lire des poèmes dans leur langue. Et c'était quelque chose que nous avions déjà amorcé à Metz il y a plus de 10 ans. Et à chaque fois, nous avons entre 100 et 150 personnes et des participants du quartier. Donc on a répliqué ce modèle à Metz-Nord-la-Patrotte avec cette volonté d'aller chercher les publics là où ils sont. Donc c'est-à-dire que les bibliothécaires, j'ai la chance d'avoir une équipe jeune qui était acquise à la cause sociale et qui a envie toujours de découvrir. Donc cette volonté d'imprégner les mentalités d'une équipe vers une autre est très forte. Et ça, par contre, il faut faire attention aux réflexes identitaires, on va dire, ou au repli sur soi, à la perte de... Alors donc, je suis très intéressée par le modèle proposé. Nous, pour l'instant, il est hors de question que les collègues bibliothécaires fassent de l'inscription sociale. Ça, ce n'est pas entendable du côté du centre social pour l'instant.
D'accord. Monsieur Boukassem, la réception par le public...
Alors,
ils disent quoi, hein, Grenet ? Je vais à la bibliothèque, je vais sur la place...
Alors, on s'est d'abord posé la question de qui étaient les publics. Oui. Et puis, on s'est dit, mais les élus et les agents sont aussi des habitants, citoyens, électeurs, contribuables, publics potentiels. Donc, dès le début... On s'était posé la question, parce que notre boulot, c'était aussi de faire la pédagogie pour les élus. Et c'est peut-être une interrogation qu'on doit peut-être avoir aussi entre nous aujourd'hui. Mais quand on explique à un maire qui veut à tout prix inaugurer, parce que c'est un enjeu politique, et qui ne va pas faire comme d'autres villes, parce qu'il compare quand même, vous le savez bien, qui inaugure une médiathèque avec à peine les trois quarts ou la moitié des collections qui sont arrivées en rayon, quand il n'y a pas un peu de scotch par là, parce que... pas été bien nettoyé ou rangé, c'est du vécu. Hein. Et on lui explique qu'il faut 20 minutes au cul du camion quand on est expérimenté et qu'on a fait les commandes pour les équiper, les cataloguer et les mettre en rayon, et que dans le rapport au temps, il nous faudrait 1 an et demi, et qu'on est dans le timing, il nous explique qu'on ne va pas faire un chèque, on ne va pas faire une commande auprès d'une société à qui on va livrer une liste d'acquisitions. Pour pouvoir les réceptionner dans les cartons, on va faire du local. Et du local, ça veut dire négocier avec un entrepreneur local qui nous met à disposition, ça veut dire équiper, faire un travail d'usinage, de magasinier. Et donc, du coup, il faut former les agents. Donc, les collègues du livre ont dû former les agents et les élus disponibles, y compris les agents de tous les services. Donc on avait la collecte de la RH ou du CCAS qui avait, selon un planning artisanal, qui venait de temps en temps et du coup participait à l'équipement, pas au catalogage, mais à l'équipement de ces ouvrages pour faire en sorte que les rayons soient prêts. Et c'était prêt. Ça use quand même, ça aussi. Hein. Du coup, ces publics-là, c'est parce que naturellement, ils en parlent à la maison. Ça devient quelque chose de presque naturel. C'est aussi une espèce de une formation interne. Donc on a ces publics-là qu'on a formés pendant quasiment 18 mois. Puis ensuite, on a eu évidemment forcément, j'ai commencé mon propos tout à l'heure en expliquant que l'éducation nationale et les élèves étaient importants. Moi, j'ai souvenir de la première réunion de chantier avec les entreprises, enfin avant la première réunion de chantier, mais l'attribution des lots et puis la répartition de le lancement de l'opération en salle des mariages, où en accord avec le maire, on a imposé à l'architecte et aux entreprises de ne pas fermer le chantier. On l'a ouvert. Évidemment, il y avait quelques barrières qui étaient ici ou là cloisonnées, mais on avait aussi des barrières. Et très, très vite, la question de la médiation, comme encore une fois, c'était un enjeu pour les publics, mais aussi un enjeu politique, on a très, très vite imposé la question de la médiation comme une nécessité dans le chantier. Donc, on a installé des caméras, des appareils photos qui prennent des photos toutes les secondes là, sur les candélabres autour du chantier. Et du coup, ça voulait dire que le directeur des services techniques, pendant régulièrement une fois par mois, ces électriciens n'étaient pas en train de changer les candélabres, mais ils étaient là-haut en train de récupérer les données pour que je puisse les préserver et avoir un outil qui, du coup, allait nous faire un film de 18 minutes pour 18 mois de chantier. Mais donc l'effet induit, c'était du coup qu'on a appris qu'il y avait très très peu de vols, puisque les agents, toutes les entreprises savaient qu'il y avait des caméras, pas des appareils photos. C'est une ville où il n'y a pas de police municipale, il n'y a pas de caméra de vidéoprotection. Mais là, l'intérêt, c'était surtout qu'on ait des traces de médiation. On a eu aussi, on a du coup initié une réflexion avec les habitants sur surveiller ou veiller comme on veille un bébé. Donc du coup, ces espaces de vision d'évolution du chantier étaient des espaces de médiation de fait pour les publics. Et puis, comme on est forcément taquin, il y avait la maison du projet qui venait d'être, qui avait servi beaucoup à une visibilité du gros chantier du Louvre-Lens. Nous, on est petits, on avait du coup pris un conteneur pourri qu'on a aménagé, qui s'appelait la cabane du projet. Donc on a amené une cabane d'un conteneur qu'on a fait. Du coup, on a fait de la médiation sur comment on peut désherber auprès des habitants avec un chantier d'insertion. On a récupéré des financements aussi là-dessus. Et puis, on avait cette cabane du projet qui avait été posée là. On avait négocié avec les entrepreneurs pour qu'ils nous offrent des casques. Et puis, le SPS était complètement fou parce qu'il disait, mais ils sont barrés à Grenay. Ils veulent faire des visites de chantier, y compris avec les grandes sections de maternelle. Bah oui. Donc, on a fait pendant les 18 mois de chantier à partir des grandes sections maternelles et puis jusqu'au collège, en adaptant à chaque fois, on a inventé. Et là, ce sont aussi les agents de l'animation qui savent faire. Peut-être un peu plus maintenant les agents du livre, mais à l'époque, moi, j'avais pas ces compétences-là. Et je leur ai demandé de fabriquer des jeux à découvrir la médiathèque, un support pour découvrir la médiathèque en jouant. On avait créé un outil d'évaluation et régulièrement, les enfants des différentes écoles jusqu'au collège venaient. On les installait dans un espace, dans cette cabane du projet notamment. Ils étaient avec le casque, ils allaient découvrir la médiathèque en vrai. Et puis, ils nous laissaient un support, ce qui nous a permis de voir qu'on avait prévu un jardin, mais on n'avait même pas eu la présence d'esprit de penser à une balançoire. C'était ballot, mais les enfants nous l'ont renvoyé. Et puis, du coup, on a fait des journées portes ouvertes avec les parents, etc. On a eu 4000 personnes à l'inauguration. C'est une ville de 7000 habitants. Hein. On a eu 4000 personnes à l'inauguration. Je pense que la médiathèque était déjà dans la vie des gens avant qu'elle ne soit livrée. Et puis, aujourd'hui, on a 200 personnes jour. Ces 53 heures d'ouverture en autonomie, sans calcul, sans valoriser le temps des concerts, des soirées thématiques, puisque tout est ouvert. C'est donc 53 heures en autonomie, et c'est multiservice, et c'est 200 personnes jour qui fréquentent la médiathèque. Et puis, on a parlé de la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle peut être vécue selon, évidemment, les origines sociales. Quand le président nous parle de continuité, j'en parlais hier entre nous, mais quand le président nous parle de continuité pédagogique, la continuité pédagogique, c'est un concept de bourgeois. Enfin, c'est possible quand on a de l'électricité, quand on a une imprimante et quand on a Internet. Quand on n'a pas ça et qu'on est socialement défavorisé, le seul espace qui permet, c'est un tiers-lieu. Et du coup, c'est la réalité que nous, on a vécue. Je ne dis pas que c'est... Mais en tout cas, les premières personnes qui ont, et à juste titre, parce que On a vécu ce drame-là tous, y compris dans notre chair, et personnellement je l'ai vécu, avec des personnes décédées, mais c'est compliqué de manager des agents qui sont en déroute totale alors qu'au niveau national il y a des contre-informations, et puis que l'ABF dit qu'il faut fermer les médiathèques, et que nous, notre médiathèque, c'est un tiers-lieu. Et donc le tiers-lieu, si ce n'est pas le dernier rapport de sauvetage au public, ça ne fonctionne pas. On a maintenu la médiathèque estaminée ouverte et on a eu 31 personnes en moyenne jour qui venaient pour faire pour assurer une continuité pédagogique et imprimer régulièrement et faire en sorte que leur gamin n'ait pas la double peine. C'est aussi ça, du coup.
Merci. On comprend en tout cas que le rapport au public, ça se travaille dans la durée, y compris pendant les périodes de chantier, et que le rôle de ces ambassadeurs, en fait, hein, que sont ceux qui participent, ceux qui visitent, ceux qui entendent parler, est sans doute essentiel dans l'ensemble des territoires. En guise de fin de table ronde, puisqu'il va falloir que nous terminions, et pour bien signifier qu'on est loin d'avoir épuisé le sujet, et que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, je voudrais demander à chacun des intervenants de donner... 3 ou 4 mots-clés qui dessinent un établissement hybride, que ce soit le leur ou un autre, de manière à ce qu'on ait un peu ce paysage, ce nuage de mots qui, en fin de table ronde, nous permettent de repartir avec des idées riches. Solène Bergot ?
Oui, moi, en premier lieu, je dirais vraiment le mot « usage », parce qu'effectivement, on remplace... progressivement dans ces projets-là la notion de propriété par vraiment la notion d'usage, et l'usager pour moi est vraiment au centre de ces projets-là, donc on n'est plus effectivement à se dédier des espaces, mais c'est vraiment l'usage qui prime. Le mot altérité est aussi quelque chose d'important, parce que c'est vraiment cette contradiction, cette différence entre différents services qui permet un peu de féconder le projet et de donner un projet augmenté. Donc ça me paraît important. Et les deux derniers mots, c'est politique et social, parce que je pense que là, on a pu l'entendre, ces projets hybrides sont fondamentalement réaffirment le rôle politique et social des médiathèques.
C'est redoutable. Oui, tout à fait. Surtout, je n'aurais pas trahi ma pensée. Donc, pour moi, ce serait l'expérience utilisateur, parce que, comme je disais, on pourra ouvrir un bâtiment, s'il n'y a personne qui rentre dedans, ce sera problématique. Par contre, réinterroger l'utilisateur à l'usage, justement, une fois qu'il a utilisé le bâtiment, nous avons fait cette expérience d'interroger grâce à une stagiaire de BUT, et on l'a poser quelques questions, et c'était très intéressant de voir le retour des usagers. En fait, ils sont beaucoup plus simples que nous. Ils rentrent, ils se trouvent bien, ils restent, et ils reviennent. Ils se trouvent mal, ils repartent, et ils reviennent plus. Donc voilà, c'est franchement très facile. Après, il y a les valeurs partagées. Ça, pour nous, c'est vraiment l'essentiel. C'est ce qui fait la jonction entre des corps de métier complètement différents. On a la même ligne d'horizon, c'est l'humain. Et favoriser, je le disais avant, son émancipation, c'est extrêmement important, parce que c'est quand même ce qui fait notre société future. Et on a plutôt besoin. Et en dernier, c'est la plasticité. Il est important que le bâtiment ait été conçu, et ça, c'est vraiment l'enjeu de la programmation, conçu, et ça... L'Agora est une réussite vraiment majeure en ce sens. Il bouge tout le temps. Il n'a rien à voir le matin avec l'après-midi. On peut bouger tous les rayonnages, bien sûr. Ça a l'air d'être... Mais un rayonnage mobile, c'est un vrai, vrai enjeu. Il faut vraiment en tenir compte. Et ça, voilà, c'est vraiment... Et en plus, plastique, alors j'ose le terme par rapport aux collègues, quand vous choisissez une équipe, on a eu la chance d'avoir pas que recruté à moyens constants, hein, ou avoir que des moyens constants. On a vraiment eu du recrutement et on a eu des personnes jeunes. J'insiste, c'est quand même intéressant d'avoir une équipe jeune. Et en même temps, des personnes qui ont envie d'évoluer tout le temps. Voilà.
Merci.
Alors, avec un bar, si je ne commence pas par convivialité, ça ne fonctionne pas. D'autant qu'on s'essaye aussi au marketing territorial et on travaille avec le commerce local. Et puis avec un chouette pâtissier, Goemi Oizé, quand même, à Grenay, et donc à qui on a passé une commande et qui nous a signé, parce qu'on a une belle œuvre plastique qui est arrivée après, avant cette médiathèque, qui est du bleu Grenay. Donc nous, on invente des couleurs, on n'a peur de rien à Grenay. Donc on a une œuvre qui s'appelle Bleu Grenay, et à qui j'avais fait une commande à ce pâtissier, qui nous a inventé le bleu Grenay. Il y a le Paris-Brest, et ben il y a le bleu Grenay. Et puis du coup, il y a l'estaminé aussi. Là, du coup, on lui a dit, on ne va pas mettre le M devant, ça ira. Il y a le gâteau, et donc forcément, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est forcément la convivialité, parce que si on s'y sent bien, on a envie d'y revenir. Et comme dans une cuisine à la maison, puisqu'il y a aussi une cuisine dans cette médiathèque, la proximité, parce qu'on est au barissant de la ville, cette médiathèque est au barissant de la ville. On voudrait vraiment être comme un espace naturel et pas contraint de rencontres. La rencontre arrive, c'est le troisième nécessaire, parce que ça crée les conditions de rencontre. Et si je vous ai évoqué l'idée que tout récemment, on avait même installé une agence postale, l'agence postale en soi et vendre un timbre, ça nous importe peu. Par contre, créer la condition de toucher des nouveaux publics qui ont découvert la médiathèque encore 7 ans après, hein, en mettant même une navette électrique, etc. Enfin voilà, on a inventé des choses avec la poste. C'était des conditions nécessaires pour trouver des nouveaux publics. Et puis, de fait, la rencontre, c'est pas suffisant s'il n'y a pas de partage. Donc voilà le dernier mot qui me vient à l'esprit naturellement autour du projet culturel qu'est cette médiathèque estaminée.
Merci beaucoup. Moi, j'en ajouterai peut-être deux mots qui me paraissent importants en vous écoutant. C'est celui de singularité et territoire. On est tous bien d'accord autour de la table et je pense aussi dans la salle sur le fait qu'il n'y a pas une recette, un modèle et que à chaque fois... C'est une définition propre, un dessin EIN propre sur un territoire singulier qui se met en place. Et pour conclure, je retiendrai ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas, et avant de vous laisser la parole, on n'est pas dans une simple addition de services, mais bien dans la construction d'un objectif, d'une colonne vertébrale qui permet de donner, on va revenir à la couleur, une couleur à cet établissement qui se construit. La parole est à vous.
Je pense que tu peux essayer.